Dans notre étude du livre de Bereshit, et nous sommes arrivés, ça y est, Besha, Tova, Umutzlachat, au chapitre 12, verset Aleph, c'est-à-dire le début de la paracha de Lech Lecha. Ok ? Nous avons donc terminé d'expliquer quelle était l'origine de la famille hébraïque. Et maintenant qu'on a terminé d'expliquer l'origine de la famille hébraïque, on est arrivé jusqu'à Abraham. D'accord ? Et on avait terminé en disant « Vayomer Hashem el Abraham » et on ne sait pas ce que Abraham a fait pour mériter que Dieu lui parle, parce qu'on ne connaît rien de lui, à part la présentation généalogique qui a été faite de lui dans la paracha de Noah. On ne connaît pas dans la Torah toutes les actions extraordinaires que Abraham a fait d'après le Midrash. Pourquoi cela ? Eh bien parce que la Torah veut que tu comprennes que si Dieu parle à Abraham, ce n'est pas parce qu'il est un mec extraordinaire, mais c'est d'abord et avant tout parce que c'est un Hébreu. Il se trouve qu'il a fait aussi des choses extraordinaires. D'accord ? Donc maintenant allons-y. Juste avant qu'on rentre dans le texte, quel âge ?
Fermez vos micros.
Fermez vos micros, effectivement. Fermez vos micros si vous n'avez rien à dire. Comme disent les autres, si vous avez quelque chose à dire, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Ça a l'air. Donc, la question est donc de savoir quel âge a Abraham au moment des événements. Alors, Abraham, au moment des événements, a 75 ans. C'est ce qu'on va nous dire dans quelques versets. Abraham a 75 ans. Maintenant, l'autre question, c'est quoi son métier ? Il fait quoi dans la vie, monsieur Avram ? Eh bien, Avram, son métier, c'est d'être gourou. D'être gourou, c'est un gourou. C'est le chef d'une secte. Non, j'exagère. C'est un Rosh Yeshiva. C'est le chef d'une grand mouvement, le mouvement de la religion d'Abraham. Eh oui, car d'après le Midrash, Abraham a bossé depuis très longtemps, alors soit depuis, les plus extrémistes, ils diront depuis l'âge de 3 ans, mais les plus réalistes parleront de l'âge de 40 ans.
Alors, il est pratique, on s'attend de Marie.
Alors, ça veut dire que 6KV, 5KR, ferme ton micro, 6KV, 5KR.
Il a pas fermé, celui-là.
Voilà. Ou alors tu parles pas. Et Bekitsour, donc on a dit, ça fait 40 ans, 35 ans, Slicha, voire 72 ans, que Avraham a découvert Dieu. D'ailleurs, comment il a découvert Dieu, Avraham ? On connaît tous le Midrash, seulement on ne le connaît pas jusqu'au bout. Le Midrash nous dit qu'un jour, Avraham s'est posé la question. Mais c'est qui le patron ? Et il a vu le soleil dans le ciel qui était le dominateur de toutes les forces. Alors il s'est dit, c'est le soleil. Jusqu'à ce qu'arrive la nuit. Et il s'est dit, mais en fait la lune, elle est plus forte que le soleil, elle l'a fait se coucher. Et le matin est revenu, alors il a dit, non, finalement c'est pas la lune, c'est le soleil. Mais après il y a eu des nuages qui sont arrivés qui ont masqué le soleil. Il a dit, ah, c'est les nuages. Après il y a un vent qui a soufflé et les nuages sont partis. Il a dit, alors c'est le vent. Et à la fin, il est arrivé à quoi ? Eh bien, les gens, si tu leur demandes, ils diront qu'il est arrivé à la connaissance de Dieu. C'est faux. Le Midrash termine en disant que Avraham a dit « Efchar birazo lelo manig ». C'est possible que cette maison n'ait pas de patron. Mais il n'a pas trouvé le patron. Avraham est arrivé au doute méthodique de René Descartes. Et ensuite, le Midrash nous dit « Et tzit salav ba'al abira ve'amar ani hu ba'al abira. » Et finalement, Dieu s'est révélé à Abraham et lui a dit « Salut, c'est moi. » Ce qui veut dire que tu n'arrives pas tout seul au dévoilement divin. Le dévoilement divin, c'est lui qui te parle. C'est pas toi qui le trouve. D'accord ? Et donc, depuis lors, Abraham s'occupe, eh bien, de transmettre la bonne parole. C'est un véritable prosélyte, Abraham. Il veut créer une religion monothéiste qui s'adresse à l'humanité tout entière. Il veut convertir un maximum de personnes à sa religion monothéiste. Est-ce que vous connaissez, vous, une religion monothéiste qui s'adresse à l'humanité ?
Le christianisme.
Alors, le christianisme, on peut débattre sur son monothéisme. Mais par contre...
L'islam.
L'islam. Abraham est en train de fonder l'islam. Et ça marche. Et ça marche, nous dit le Rambam. Dans les lois sur la Avodah Zarah, chapitre 1, lorsqu'il arrive à Abraham, il explique qu'Abraham, il avait « alafim urvavot talmidim ». Il avait des dizaines de milliers d'élèves. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce monde-là ? Parce que Abraham à Haran, il faut que tu comprennes, c'est une star. Abraham, il ne peut pas aller faire ses courses à la Macolette. Il a des élèves qui vont lui faire les courses à la Macolette. Abraham, il a une voiture de fonction avec un chauffeur. Abraham, il a dans la ville une vingtaine de bâtiments qui lui appartiennent. Il y en a un, c'est les institutions pour le chesed d'Abraham. Il y en a un autre, c'est les institutions pour les jeunes mariés, Abraham. Il y en a un, c'est les institutions pour l'étude de la théologie, Abraham. Il y a le restaurant, Abraham & Co. Bien sûr, Abraham, il est connu de partout. Et c'est sur ce fond-là que Dieu se dévoile à lui et va lui présenter un autre projet. Vayomer Hashem el Avram lech lecha. Lech lecha, pourquoi il n'y a pas eu marqué simplement lech? Ça aurait marché. Vayomer Hashem el Avram lech. Me'artzecha ou me'molatecha. On aurait très bien compris. Le mot lecha vient rajouter quelque chose. Ça veut dire par toi, tout seul. Et c'est pour ça que Rashi dit pour toi. C'est-à-dire que l'ech lecha, ça veut dire part tout seul. Mamash tout seul. Mais artzecha, ou mimolatecha, de ton pays, du pays de ta naissance, mi bet avicha, de la maison de ton père, et la aretz asher areka, vers le pays que je vais te montrer. Ve esra le goy gadol. Ve avarechecha. Va'agadla shemecha, ve'yé beracha. Et je ferai de toi un grand peuple. Abraham, jusqu'à présent, voulait créer une religion. Akadosh Baruch Hu veut créer un peuple. Et la différence est fondamentale. Parce qu'une religion n'en fait partie que celui qui est religieux. C'est du français, les amis. Religion, ça vient du terme religios, relié. Tu te relies par des actions, nous dit le petit Robert. Religion, ensemble des doctrines et des actes qui vont relier l'homme au divin. En d'autres termes, la religion, c'est faire 1, 2, 3. Ou alors croire 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des actes. Ça veut dire que si toi, tu rejettes ces actes, mais tu fais pas partie de cette religion. Dans l'islam, vous avez les cinq piliers fondamentaux de l'islam. Un musulman qui les rejette, mais il n'est pas musulman. Dans le christianisme, vous avez les dogmes fondamentaux du christianisme. Celui qui le rejette, mais il n'est pas chrétien. Mais un juif qui rejette les 613 mitzvot.
Et il est juif.
Il est quand même juif. Il est quand même juif à 100%, j'allais te dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il est juif à 100%? Ça veut dire que mon appartenance à l'identité juive ne dépend pas de si je fais ou si je ne fais pas. Il faut faire, c'est très bien de faire, je suis pour les mitzvot. Mais c'est pas ça qui détermine mon appartenance au judaïsme. C'est parce que je fais partie d'une identité nationale. Je suis un peuple C'est qui a dit ça? Ben, c'est Dieu. Voilà le programme. Je ferai de toi un grand peuple. Ve'avarechacha, je te bénirai. Ve'agadla shemecha, je ferai grandir ton nom. Ve'ye beracha. Ve'avarechacha mevarechacha, ou mekalelcha or. Tu as maintenant la capacité, toi, de donner des brachot ou de maudire les gens. Venivrechu becha kol mishpechot a adama. Et en toi seront marcotées toutes les familles de la terre. Oui, ça ne veut pas dire en toi seront bénis. Venivrechu ne veut pas dire béni. Parce que pour dire bénir, on aurait dû dire venitbarechu becha. Ça sera marqué à la fin de la parashat Akedah. Ve'itbarechu bezarecha kol goyei haaretz. Mais venivrechu ne vient pas du verbe levarer, mais vient du verbe lehavrir. Or lehavrir, ça veut dire marcoter, c'est-à-dire prendre un pan de vigne, le courber, le planter dans le sol, et de là va sortir un nouveau rameau de vigne. Ok? Ça veut dire que Abraham, il n'a pas un but de prosélytisme. Mais les autres nations peuvent s'attacher à lui. Ok? Voilà le programme d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, nos sages vont nous dire qu'Abraham, il a eu 10 nisyonot. Qu'il a eu 10 fois où Dieu l'a mis à l'épreuve. Et ça, c'est un des nisayon. Mais j'aimerais vous poser la question suivante. Tuer ton fils, ça c'est un nisayon. La famine, ça c'est un nisayon. La fournaise de Nimrod, ça c'est un nisayon. Mais quelqu'un qui croit en Dieu, qui est fan de Dieu, et Dieu lui dit « Pars et je te donnerai monts et merveilles », pourquoi ce serait une épreuve? Alors Abraham y croit en Dieu. Donc il sait qu'il va lui donner monts et merveilles. Alors pourquoi est-ce une épreuve?
Un appel.
Hein? Ben, l'épreuve, elle est simple. On lui demande de changer de programme. On lui demande de changer complètement sa conception de son travail. Vezé caché me'od. C'est très très dur de se remettre en question. Parce qu'en fait, Dieu, il dit à Abraham, tout ce que tu as fait depuis 35 ans, choum d'avar, allez, tu abandonnes tout ça. Eh bien, va commencer maintenant le conflit entre Abraham et Dieu, parce qu'Abraham n'est pas d'accord avec le projet divin. Regardez. Va yelech Abraham ka asher diber elav Hashem. Et Abraham est parti exactement comme Dieu lui avait dit. Ah, bah qu'est-ce que je raconte qui n'est pas d'accord? Il est d'accord.
Et qui?
Attends. Vayelechito Lot. Lot est parti avec lui. Bon, c'est vrai que Dieu lui a dit d'aller tout seul, mais c'est pas lui qui a pris Lot. Il est venu de son plein gré. Bon, ok. Et là, on nous dit Ve'Avraham ben chamesh shanim ve'shivim shana betzeto mi'charan. Il a 75 ans quand il sort de Charan. Et regardez ce qu'il y a marqué dans le verset d'après. Vaikar Avram et Sarah Ishto, et Lot ben Achi, et Kol Rechusha Masher Achashu, et Anefesh Asher Asu Becharan, et Zul Alechet Arza Kenaan, et Avou Arza Kenaan. Et Avram a pris Sarah et sa femme, Lot son neveu, et tous ses biens, et toutes les âmes, ses élèves en fait, qu'il avait fait à Charan. Nos sages nous disent, attends deux secondes. Il y a marqué dans le verset d'avant, et il est parti. Et là on dit, et il a pris. Ça se contredit. Et de là, donc, on apprend qu'il est parti deux fois. Avraham est parti la première fois comme Dieu lui avait ordonné. Il est arrivé en Eretz Israël et il n'a pas kiffé. Et il a fait sa yérida. Pourquoi il a fait sa yérida? Pour reprendre tout le monde avec lui le prochain coup. Et cette fois, il revient, mais pas selon le projet divin, mais selon son projet, il va tout simplement venir créer une nouvelle succursale de la religion d'Abraham sur la terre que Dieu va lui montrer. Oui, Jean-Paul, qu'est-ce qu'il y a?
D'où on sait ça qu'il est parti deux fois.
Ah, bah parce qu'il a marqué d'un côté Vayelech Avraham Kasher Diber El Hashem, et on nous dit
oui,
que Lot est parti avec lui, et puis juste après on nous dit
oui.
Et il a pris Sarai, Lot, ses élèves, machin. C'est parce que Dieu lui a dit. Donc s'il a fait d'abord ce que Dieu lui a dit.
Et...
Hein?
D'accord.
Ok?
Oui.
Ok. Jean-Paul, tu as levé les sourcils.
Non, pas moi, c'est pas moi.
Non, je sais, Jean-Paul. Jean-Paul, il a levé les sourcils. Non? Pas de sourcils? Si, tu relèves. Mais je t'entends pas, t'as ton micro fermé.
Mais c'est un peu le fait qu'il est marqué Bayikar, Bayeler, c'est pas forcément deux actes séparés. Ça peut être en même temps, même unité de temps.
Ah oui, mais si c'est alors d'abord, j'entends bien ce que
les enfants, etc.
J'entends ce que tu dis, mais si tu me dis que c'est une unité, enfin c'est au même moment. Alors, il y a une contradiction dans le verset. Parce qu'il ne peut pas partir tel que Dieu lui a dit en prenant avec lui tout le monde. Ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. Ça, c'est la première chose.
Mais il aurait dû dire alors, au premier départ, Lot, moi, je pars seul.
Non, parce qu'il y a une différence entre prendre Lot avec lui et que Lot, il lui a dit « Tonton, attends, j'arrive !» C'est pas pareil. Dieu ne lui a pas dit de chasser Lot si jamais il venait. Maintenant, une deuxième chose... Effectivement, il y a une autre chose qui va faire que nos sages disent qu'il est parti plusieurs fois, c'est quand tu prends les différences de timing, quand tu fais la frise chronologique de la vie d'Abraham, tu vois que entre le moment où il part et le moment où il y a Brit Ben Abetarim, ça colle pas. Et on te dit effectivement, il manque 5 ans, c'est parce qu'il est parti, il est revenu, il est reparti. Ok? Donc tout ça pour dire qu'il est finalement revenu, pas avec le projet de Dieu, mais avec son projet à lui. Ok? Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, c'est pas compliqué. Va yavor Avraham ba'aretz. Alors, 2 secondes, on n'a pas dit. Il va où Avraham? En Eretz Kenan. Mais Dieu ne lui a pas dit d'aller en Eretz Kenan. Il lui a dit... Va dans le pays que je te montrerai. Comment il sait que c'est Eretz Kenaan? Bah, 1, parce que c'est le pays que Dieu lui a montré. Et 2, il continue l'acte de son père, qui voulait retourner en Eretz Kenaan, je vous rappelle. Ok? Va yavor Avraham ba'aretz. Ad mekom shechem. Ad elod more. Va kenaani az ba'aretz. Donc Abraham est parti. Combien de temps ça met de partir de Haran jusqu'à Shrem, à pied? Or, un bon 6 mois. C'est pas à la porte à côté. Lucien, la vie des objets est très intéressante, mais pas ici. Voilà. Bekitsour, c'est loin. Ça fait un long voyage. Et pendant tout ce voyage, Dieu ne parle pas à Abraham.
Il est fâché.
Ben oui, il est brogueuse.
Il est fâché.
Il est brogueuse. Mais je rigole pas. C'est ce qui a marqué Vaya Avor Avraham Baaret. Nous dit Manitou. Mais c'est Vaya Avor ou Avar Avera.
Le passé. Passé.
Non, alors littéralement, ça veut dire il a traversé. Mais il te dit, mais Ougam Avar Avera. C'est quoi d'avoir pris tout le monde? Ok? Vaya Avor Avraham Baaret ad mekom shechem. Mazem mekom shrem. Pourquoi il n'y a pas marqué shrem tout court? Eh bien, tout simplement parce que quand il y a marqué dans la Torah mekom ploni, makom x, ça veut dire que cet endroit-là n'est pas encore construit. Ça sera l'endroit où plus tard il y aura shrem. D'accord? Donc quand il arrive, Abraham, à cet endroit-là, il n'y a pas encore de ville. D'accord? Adelon Moré, Vakenaani Az Baaretz. Mazé Akenaani Az Baaretz. Le Cananéen est à ce moment-là en Israël. Nous dit Rashi, et nous disent nos sages, ça montre qu'il vient d'arriver le Cananéen. C'est-à-dire que les Cananéens ont conquis la terre d'Israël. C'est pas à eux, mais ils l'ont conquise. D'accord? Vayera sera Hashem el Avram, Vayomer. Ça y est, maintenant qu'il est revenu en Israël, Dieu lui reparle. Et c'est pour lui dire quoi? C'est pour lui dire, tu t'es planté. Comment ça, tu t'es planté? Vayera Hashem el Avram, Vayomer, Lezaracha eten et haaretz azot. C'est à ta descendance que je vais donner cette terre, et non pas à qui? Bah non pas à tous les mecs que t'as amenés avec toi. Désolé, mais c'est pas ça le projet. Vayiven sham misbeach la Hashem anire elav. Est-ce que Avraham a compris? Ouais. Il a compris, et donc il va laisser sur place tous ses élèves. D'ailleurs, dans deux générations, il y a Yaakov qui va arriver à un endroit qui s'appelle Shrem, avec une ville. Donc cette ville a été construite par qui? Par les élèves d'Avraham. C'est la raison pour laquelle il va à Shrem. Bon, malheureusement, les élèves ne sont pas au niveau du maître. Ok? Besseder. Donc, Vayatek Misham Ahara Mikedem. Mikedem le Betel. Vayet Aolo. Betel miyam ve'ay mikedem ve'iven sham misbeach la'Hashem ve'ikra b'shem Hashem. Il est arrivé finalement entre Betel et Ay, et il y plante sa tente. De là, on apprend que il a plus tout le monde avec lui. Il a plus que sa tente à lui et celle de sa femme. Ok? Et là, il commence à faire le contraire de ce que Nimrod avait fait. On avait dit Nimrod, pour régler le problème de l'humanité, il les avait fait oublier Dieu. Avraham matril likro b'shem Hashem. Il invoque le nom de Dieu pour le faire connaître à tout le monde. Ok? Et là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'il a fait ça, Avraham s'est débarrassé de ses élèves, j'allais dire babyloniens, assyriens, Chananéen. Maintenant qu'il s'est débarrassé d'eux, il se dit, peut-être que Dieu il voulait pas de ces gens-là, mais peut-être que je peux aller prôner mon idéologie avec d'autres. Peut-être que Dieu il aime pas les gens qui sont de Charan, mais ça veut pas dire qu'il a tiré un trait sur tout le monde. Donc, Vaïssa Avraham alor venasoa anekba. Avraham est parti au sud. Donc, il est parti où? Où il est parti? On nous dit qu'il va au sud. Il est à Shrem.
Beersheba, non?
Beersheba, pourquoi il y a quelque chose à faire à Beersheba?
L'Égypte.
Nous dit Rashi, il est parti et il est passé par Jérusalem. Mais d'accord, mais ça c'est juste une station intermédiaire. Où est-ce qu'il veut aller? Ben, il veut pas aller à Yerucham, hein, je vous rassure. Il veut aller en Égypte, évidemment. Et pourquoi il veut aller en Égypte? Pourquoi il veut aller en Égypte? Il veut aller en Égypte parce que c'est la plus grande puissance mondiale de l'époque. Et quand t'as un idéal à faire passer, qu'est-ce qui est plus facile de le faire passer quand tu habites à Metz ou quand tu habites à New York? Donc, évidemment, Avraham, il veut aller en Égypte. La preuve, Vayi Ra'av Ba'aretz, Vayered Avraham Mitzrayma. Kikaved, la Gourcham, Kikaved Ra'av Ba'aretz. Pourquoi il a marqué deux fois qu'il y a une Ra'av, une famine en Égypte? Vayi Ra'av Ba'aretz. Et ensuite, Avraham est descendu, il y a eu une autre, on te dit, de nouveau, il y a une famine en Égypte. Donc, nous disent nos sages, il y a la première famine qui était au niveau matériel, il n'y avait pas à manger. Deuxième famine, au niveau spirituel. Tout le monde a ressenti que quand Abraham est arrivé, on a besoin d'entendre quelque chose de lui. Donc Abraham, il est comme un poisson dans l'eau. Il fait ce qu'il a appris à faire, ce qu'il est le meilleur à faire, convertir des gens. Voilà le programme. Vayika Asher ikriv lavo Mitzrayim. Il arrive vers l'Égypte et là, il sait que il va avoir le contrôle du pass sanitaire. À l'entrée de l'Égypte, on va vérifier si tu as ta troisième dose, si tu as ton pass vaccinal, et donc, on va vérifier ton identité. Abraham, il est en règle, mais le problème, c'est que Sarah, elle est anti-vax et qu'elle n'a pas fait ses doses. Bon, alors, je préfère le dire, comme nous sommes retransmis devant des millions de téléspectateurs, c'était une boutade. Sarah n'était pas anti-vax. Ne venez pas dire « Ouais, le Rav Fizo, il a dit, Sarah, elle est anti-vax, alors ça veut dire qu'il faut arrêter de se vacciner !» Ça s'appelle une plaisanterie. Non, Monique, je préfère le dire, parce que tu connais comme moi les gens.
Oh oui.
Hein, voilà, on les connaît, les gens.
Oh, oui. Oh là là.
Donc, anti-vax ou pas anti-vax, nous dit le Midrash, dans tous les cas, Abraham, c'est un contrebandier. Ben oui, parce que nous dit le Midrash qu'il a planqué Sarah dans une boîte. Et il voulait lui faire passer la douane sans la déclarer. Les mecs, ils lui ont dit à l'entrée, vous avez quelque chose à déclarer? Il a dit non. Rien à déclarer, t'es sûr? Il a dit non. Ils ont fait passer la boîte dans le scanner et ils ont vu quelque chose qui bouge. Et ils ont sorti Sarah de la boîte. Maintenant, moi, ça m'est arrivé dans mon dernier voyage en France. Mon dernier voyage en France, les amis, j'étais là pour le Shabbat des rabbins. Je suis parti en France et j'ai ramené avec moi dans ma valise des denrées particulières que nous ne trouvons pas en Israël ou alors que nous trouvons à prix d'or. Alors chacun ses denrées, chacun a ses petits plaisirs nostalgiques. Eh bien moi, mes plaisirs nostalgiques, c'est, je cite, l'oasis tropicale, l'orangina et le liptonique. Voilà. Chacun, c'est chacun son truc. Ok ?
Et les marrons glacés.
Hein ?
Et les marrons glacés.
Ça c'est ton plaisir. Ça c'est pas mon plaisir. Et donc, j'ai mis 6 bouteilles, 2 de chaque, dans ma valise.
Oui.
C'est pas illégal, hein ?
Non.
C'est pas, j'ai pas mis 6 cartouches de cigarettes. J'ai mis 6 bouteilles de boissons non alcoolisées. Tu vois pas la contrebande. Maintenant, ils m'ont arrêté. Tu sais, quand tu sors de Datbag, de l'aéroport, il y a des fois, arbitrairement, les mecs te disent de toi, viens là. Et ils m'ont fait passer ma valise dans la machine. Ils ont vu ces bouteilles. Ils m'ont fait ouvrir la valise. Ils m'ont dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est de l'Oasis, de l'Orangina et du Liptonique. Et ils ont resté, et je rigole pas, 20 minutes pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Et ils disent, mais qu'est-ce que c'est? C'est de l'alcool? Non, c'est pas de l'alcool. Il a fallu que j'aille sur Google pour leur montrer que c'était bel et bien des produits pas alcoolisés, machin, authentiques. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai été un très très mauvais contrebandier. Si j'avais dû faire passer autre chose, ça n'aurait pas marché. Quoi qu'il en soit, Abraham, il arrive là-bas et il met Sarah dans sa boîte. Bon, c'est pas marqué dans la Torah, c'est marqué dans le Midrash. Mais ce qui est marqué, oui, dans la Torah, c'est que Abraham comprend très bien que Sarah va être un problème. Quel est le problème? Iné. Vaïka Asher ikriv lavo Mitzrayima. Vayomer el Sarai ishto. Il a dit à Sarah, sa femme. Inena yadati ki isha yefat mar'eat. Eh ben, tu sais quoi? Tu es belle? Mastomet, je rappelle à tout le monde qu'à ce moment-là, Abraham a au moins 75 ans. Allez, 76, parce qu'il a fait tout le trajet pour venir en Israël. C'est bien passé un an. Il a 76 ans. C'est-à-dire que Sarah, elle en a 66. Je ne sais pas exactement à quel âge ils se sont mariés, mais à mon avis, ça avoisine les 13 ans, 14 ans, 15 ans. Donc ça veut dire qu'ils vivent quand même ensemble depuis près de 50 ans. Je ne sais pas ce que c'est en termes de noces, 50 ans.
Noces d'or.
Noces d'or. Et après, il y a quoi ?
Diamant.
C'est quoi ? C'est 60 ?
60, ouais.
Et 70, ça n'existe pas. Il se dit que personne... Non ? C'est pas... bon. En tout cas, 50 ans, c'est déjà un beau palmarès. Tu vois quoi ? Il ne sait pas que sa femme, elle est belle ? Il lui a jamais dit qu'elle était belle ? Pour la Brit Mila de Lot, tu crois pas que Sarah, elle s'est fait belle ? Et Lama ? Bon, tu me diras, Lot, il n'avait pas eu de Brit Mila parce que Dieu ne lui avait pas encore dit de faire la Brit Mila. Non, Pseder, ça aussi, c'est une blague. Non. Bekitsour, il sait pas qu'elle est belle ? Bien sûr qu'il sait qu'elle est belle ! Sauf que ça n'a jamais été une ça n'a jamais eu d'importance à part dans leur intimité à eux deux. Mais maintenant, ça va avoir une importance. Pourquoi ? Nous dit Rashi. Alors attention, c'est le moment raciste du moment, du cours. Nous dit Rashi. Pourquoi est-ce que ça pose un problème ? Parce qu'on va arriver maintenant dans un pays qui sont les descendants de Ham. Remitzraim est un des enfants de Ham, on l'a vu. Et donc là-bas, ils sont tous moches et ils sont tous noirs. Donc ils n'ont pas l'habitude de voir une femme comme toi et donc ils voudront se marier avec toi. Alors, j'entends les ricanements, mais j'aimerais préciser une chose. Les Égyptiens actuels ne sont pas noirs.
Oh.
Hein ?
Oui,
dans le faciès.
Non. Haute Égypte, il y a pas mal de noirs.
Alors, c'est ça. C'est-à-dire que les Égyptiens actuels, que tu connais, toi, en Égypte, ce sont principalement ce sont des maghrébins au niveau de leur aspect physique. Mais effectivement, dans la Haute Égypte, et à l'époque, c'était la population officielle, on est de couleur beaucoup plus noire. Et on peut le voir dans les hiéroglyphes, dans les pyramides, dans les dessins des pyramides, tu vois qu'ils sont beaucoup plus colorés qu'aujourd'hui.
Oui.
Donc il y a eu un brassage génétique, il y a eu un brassage de population. Ok, tout va bien. Donc de dire qu'ils sont noirs, c'est tout à fait plausible. Mais et en quoi alors ça veut dire que Sarah, ça va être un objet de convoitise ? Sarah, elle vient d'où ?
Elle est blanche.
Alors elle est pas... Non, Sarah, elle est pas norvégienne. Ok ? A priori, elle n'est pas blonde aux yeux bleus. Mais, effectivement, elle vient de Babylone, elle vient de Bagdad, elle est beaucoup plus claire que les gens de la Haute-Égypte. Donc, c'est une constante sociologique que lorsque tu as un individu beau, selon tous des critères de beauté, mais qui est unique, eh bien, elle attise l'envie et les convoitises. Ok ? Donc, nous dit Abraham, ils n'ont pas l'habitude de voir une femme comme toi. Donc, forcément, ils vont vouloir te prendre. En plus, t'es belle. Et en plus, t'es belle. Ok ? Donc, maintenant, ça va être un problème. Il va falloir trouver une solution à ce problème. Quelle est la solution que Abraham va trouver pour répondre à la problématique ? Eh bien, c'est très simple. Nous dit Abraham, regardez bien, Ve'aya ki yiru otach ha-mitzrim, ve'ameru ishto zot, ve'argu oti, ve'otach yichayu. Lorsque les Égyptiens vont te voir, moi, ils vont me tuer, et toi, ils vont te prendre. C'est-à-dire que pour les Égyptiens, il n'y a aucun problème de tuer le mari, parce qu'on ne vole pas la femme d'un autre. Mais on peut tuer le mari, comme ça elle est veuve. Donc comment Abraham s'arrange ? Il dit Imrina achotiat leman yitav li ba'avurech vechaita nafshi biglalech. C'est quoi cette façon de réagir? Dis que tu es ma sœur pour que je vive grâce à toi et que on me fasse des kiffs grâce à toi. Mazot omeret. Nous dit Rashi, maze yitav li ba'avurech, yitnu li matanot. J'ai pas compris. Abraham, tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne des cadeaux? Faut comprendre comment la société de l'époque, elle marche. À l'époque, une femme, est-ce qu'elle est libre de décider avec qui elle va se marier?
Non.
Non. Qui va la marier?
Pardon?
Son père, pas ses parents, son père. Et s'il n'y a plus de père?
Son frère.
Son frère. Donc, lorsque Abraham se présente comme sa sœur, enfin, comme son frère, et qu'elle est sa sœur, ben, il n'y a plus de problème. Et au contraire, on va maintenant essayer de soudoyer Abraham pour qu'il accepte le mariage. Donc, il dit, moi, je pourrais toujours refuser et dire que, écoutez, je réfléchis, je suis pas sûr, machin. Imagine-toi la scène. T'as un haut dignitaire de l'Égypte qui va voir Sarah et dit, bon, Abraham, faut qu'on cause. Tiens. Je te construis une pyramide personnelle et tu me donnes la main de ta sœur. Ah, écoute, à mon beau-fils, c'est une idée intéressante. Faut que j'y réfléchisse. Faut que j'y réfléchisse parce que hier, Osiris, il est venu et il m'a proposé un sphinx. Eh, c'est pas évident. Et en cela, Abraham peut faire durer le suspense. Et peut protéger Sarah. Les manitavli ba'avourer. Ça va m'enrichir, mais c'est pour toi. Vechaita nafshi biglalech. Bon, au final, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? On va voir. Mais juste avant qu'on voit, ça, c'est la version officielle, ce qu'on vient de dire. Il y a une version un peu plus officieuse. Quelle est la version officieuse de l'histoire? La version officieuse, c'est le code que Abraham a donné à Sarah. On a dit qu'il vient en Égypte pour essayer de convertir un maximum de personnes à son identité, à sa religion monothéiste. Ok. Mais il vient là-bas aussi pour récupérer quelque chose. Qu'est-ce qu'il vient récupérer en Égypte? Dans chaque malchut, dans chaque royaume, dans chaque identité humaine, il y a des choses à récupérer. Ok? À Babylone, qu'est-ce que Abraham a récupéré et a mis à son actif? À Babylone, on apprend la dimension de malchut. Puisqu'il y a marqué dans la Torah, Veteim Reshit Mamlachto Bavel. Et on avait expliqué que Babylone était la première cité-état. Qu'est-ce que Abraham vient chercher en Égypte? Eh bien, Rabotai, Abraham a lu le livre de Michelet. Et comme il a lu le livre de Michelet, et que Sarah également, eh bien, il lui dit. Tu te rappelles de ce qu'il y a marqué dans Michelet? La reine Imrina Achotiat. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Nous, on a dit qu'Abraham a dit « Dis que tu es ma sœur ». Aval, c'est pas ce qu'il y a marqué dans la Torah. Il n'y a pas marqué « Imrina ki Achotiat » ou « She Achotiat ». Il n'y a pas marqué la conjonction « que ».
Non.
Il n'y a pas marqué « dis que tu es ma sœur ». Il y a marqué que Dieu, que Abraham dit à Sarah « dis, s'il te plaît, tu es ma sœur ». Il n'y a pas marqué « dis que tu es ma sœur ». Il y a marqué « dis tu es ma sœur ». Alors évidemment que quelque part, ça veut dire qu'il faut qu'elle dise qu'elle est sa sœur. Mais pourquoi est-ce que c'est présenté comme ça? Parce qu'il y a un code ici derrière. Dans le livre de Michelet, il est marqué « Emor la chochma achoti at ». Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Lorsque Abraham dit à Sarah, dis à qui elle doit dire? À l'Égypte. Et donc elle doit dire à l'Égypte, tu es ma sœur. Ce qui veut dire que l'Égypte représente quoi? La chokhma, la sagesse. Si de Babylone on devait prendre la malchut, de l'Égypte on doit prendre la sagesse. Ça va? Alors très bien, vaï kevo Avraham Mitzrayma vaïrou à Mitzrim. Donc le plan il est bien rodé. Aval vaïrou à Mitzrim et Aïcha. C'est qui les Mitzrim qui ont vu? C'est les douaniers. Et ils ont dit ki yafai meod. Et là il s'est passé ce que Avraham n'avait pas prévu. Vaïrou ota sare paro. Vaïallelu ota le paro. Vatukach Aïcha bet paro. Le seul qui n'a pas besoin de la permission d'Abraham, de la permission formelle d'Abraham, qui n'a pas besoin de négocier, c'est Pharaon. Ah, c'est ta sœur, donc elle est libre. Yallah. Yallah. D'abord, on l'amène au palais, et puis t'inquiète pas, d'ici 15 jours, on t'enverra un recommandé du palais pour venir rencontrer ton futur beau-frère.
Je te rappelle.
Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Vatuka Haïcha Bet Paro. Ou l'Avraham est Yves Bahavoura. Ah ben, Paro, il a kiffé Sarah, donc il n'y a aucune raison de prendre en grippe son frère. Et donc, Avraham a été couvert de richesses. C'est le frère de la préférée de Pharaon. Donc, il a été couvert de richesses. ולאברהם היטיב בעבורה, והיא לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. On voit ici comment les Égyptiens y considéraient les esclaves. Ils les mettent dans la même liste que le bétail. Ça va? וינגע השם את פרעה, נגעים גדולים ואת ביתו, על דבר שרה אשת אברהם. מה זה? Finalement, Dieu ne laisse pas Pharaon s'approcher de Sarai. Le Midrash nous dit que Sarai, elle avait un malach à son service. Et qu'à chaque fois que Pharaon essayait de s'approcher d'elle, elle lui disait au malach, frappe-le. Et il le frappait à l'endroit où ça fait mal, comme on dit chez les garçons. Rachid nous dit qu'en fait, il avait été atteint, Pharaon, de la syphilis. Il ne pouvait pas avoir des rapports avec Sarah. Et là, qu'est-ce qui se passe? ויקרא פרעה לאברהם, מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי כי אשתך היא? כמו יסה? באלו ידי. תו סמפלמו. פורקוואט שם לבדי? למה אמרת אחותי היא? ויקח אותה לי לאישה ואתה הנה אשתך? קח ולך! יפת דבה. Il n'y a pas de débat, sauf que Pharaon a quand même compris qu'Abraham, ce n'est pas un mec avec qui on discute. Vaut mieux pas être l'ennemi d'Abraham. Il a des alliés trop haut placés, Abraham. Alors il s'en va. Et donc il part. Et il part comment? Avec plein d'argent. Mais il part aussi avec autre chose. Avec une nouvelle élève, la fille de Pharaon, qui deviendra la servante de Sarah, Agar. Abraham a donc réussi à implanter son idéologie en Égypte. Et l'Égypte est venue faire un stage de confirmation chez Abraham. Il n'est toujours pas convaincu par le projet divin. Comment Dieu va le convaincre, finalement, de prendre fait et cause pour son projet? Eh bien, les amis, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine en vrai, en live et pas en Zoom, Bezrat Hashem.